Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main et il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Alors Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On va lire le deuxième passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, et les quatre premiers versets. « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Nous sommes à la fête de Pentecôte. Il est important de bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. La venue du Saint-Esprit sur les croyants et la création de l'Église. Donc c'est quelque chose qui est ex nihilo, c'est-à-dire ça vient de nulle part, c'est une création nouvelle, l'Église. Ce n'est pas la continuité du peuple juif, elle ne remplace pas le peuple juif, comme la théologie du remplacement, c'est tout à fait autre chose. Et cette autre chose, c'est Jésus qui l'a créé en envoyant l'Esprit de Dieu, en envoyant l'Esprit. Alors c'est important de savoir quelle est la mission de Jésus que nous avons lu tout à l'heure lorsqu'il est venu vers Jean-Baptiste qui a précédé la venue de Jésus. Et Jean-Baptiste qui baptisait en vue de la repentance. C'est ainsi qu'il a ouvert le chemin pour présenter et pour ouvrir l'accès au ministère de Jésus. Et Jean a cette parole en disant « Je ne suis pas digne, bien sûr, de porter ces sandales. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Donc il y a une notion de puissance, là, on verra ça tout à l'heure. Et il dit quelque chose d'important, « Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Alors il y a beaucoup de confusion à cela. Les gens pensent que c'est la même chose, le Saint-Esprit et le feu. Et ce qui amène la confusion, alors pour ceux qui suivent la théologie de l'âme, ils ont déjà la réponse, puisqu'on a, on a traité ça il y a trois semaines. Il y a beaucoup de confusion parce qu'il est question des langues. Certaines parlent des langues de feu. Ce n'est pas des langues de feu. Est-ce que vous avez bien entendu que j'ai lu tout à l'heure? C'est des langues qui paraissaient de feu. Voyez-vous comme quoi on saute très vite quand on ne laisse pas la parole laisser parler d'elle-même, quand on interprète, quand on va trop vite sur la parole. Quand on dit « écouter la parole », ça veut dire « écouter la parole ». Allô ? Vous êtes avec moi ? Écouter la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est vraiment lui laisser la primeur de ce qu'il veut dire et l'interprétation qui est associé à ce que Dieu veut nous dire. Or, le feu n'est pas du tout le feu de la puissance qui ensuite, après, permet de faire des miracles. C'est le feu du jugement. Ce feu dont il est question, de la bouche de Jean-Baptiste, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est la notion de jugement. Ce matin, je ne vais pas développer le jugement, mais c'est ce qu'il faudrait faire à la suite de ce verset. Parce que il y a en fait un jugement immédiat lorsque Jésus est présenté. Lorsque vous présentez Jésus, lorsqu'il vous est présenté à vous, en fait, le jugement est immédiat. Ou on accepte Jésus, ou on ne l'accepte pas. Parce que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie en portant le péché de l'humanité. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, la vie, elle se reçoit en acceptant Jésus par la... Voilà, merci pour l'interaction. Il y en a un qui le sait. Donc je le redis pour tout le monde. On reçoit la vie éternelle en acceptant Jésus par la foi. Non pas par les œuvres, mais par la foi. C'est-à-dire quand on accepte que Dieu a choisi un moyen qui lui revient, c'est lui qui l'a choisi, d'envoyer Jésus pour porter nos péchés et pour devenir l'agneau immolé. Et c'est ce choix, et c'est pour cela que c'est très difficile pour les hommes d'accepter cela. C'est une sagesse qui heurte beaucoup d'ailleurs, qui n'acceptent pas Jésus, disent c'est trop simple. Forcément, c'est trop simple. Il y a juste à accepter Jésus par la foi. Mais c'est tellement simple qu'ils ne le font pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que ça heurte le raisonnement de l'homme. Le raisonnement de l'homme, c'est pour être sauvé, il faut faire quelque chose d'important, qui coûte, qui a de la valeur, etc. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Et dans toutes les religions, on veut faire des sacrifices. Or, quelqu'un fait le sacrifice de sa vie, c'est Jésus. Allô ? Vous voyez, la logique ne prévaut pas dans ce cadre-là. C'est le désir de faire quelque chose pour Dieu. Mais comment pourrions-nous faire quelque chose alors que nous sommes pécheurs ? Tout ce que nous faisons est souillé. Tout ce que nous faisons est impur. Dieu ne peut pas recevoir quelque chose d'impur. Mais Jésus, lui qui est pur... Lui, il a donné sa vie. Lui, le Fils de l'homme, il a donné sa vie et son sacrifice a été agréé. Ce qui est important, c'est d'être agréé de Dieu. Regardez Abel et Caïn. Les deux ont donné un sacrifice. Et il y en a un qui a été accepté, celui d'Abel, et l'autre a été rejeté. Pourquoi ? C'est injuste ? Non, parce que c'est les critères de Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est pas nous. C'est pas nous qui devons dire, Seigneur, tu dois accepter ce que je fais. Vous voyez ? Or, le seul sacrifice qui est accepté, c'est celui de Jésus. Hello ? Et ça, c'est le salut en Jésus, c'est le christianisme. Et là, quand il est question de repentance, et se repentir des péchés, quand Jean-Baptiste parle de se repentir, de préparer la voie du Seigneur, et il dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus lui-même a été baptisé de l'Esprit. Quand il a accepté de passer par les eaux du baptême pour annoncer et accomplir la justice de Dieu, comme il le dit à Jean-Baptiste, il n'avait pas besoin d'y aller pour ses péchés, il n'en avait pas. Mais c'est pour accomplir la justice de Dieu. Et en passant par les eaux du baptême, il a été approuvé du Père qui a fait descendre le Saint-Esprit sur lui. Et là, Jésus est devenu Christ. Jésus Christ. Christ, ça veut dire oint, Messie. Donc Jésus avait les deux natures. Il avait la nature humaine, comme Jésus, né de Marie, et le Christ, né d'en haut, oint par Dieu pour accomplir la mission à laquelle il était destiné, auquel il a répondu, puisque dans le ciel, le Père avait cherché quelqu'un qui peut se présenter comme sacrificateur, et c'est Jésus qui s'est présenté. Mais le feu, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, c'est le feu du jugement. Et ceux qui n'acceptent pas, alors bien sûr, quand vous présentez l'évangile, bon, ils peuvent très bien refuser, les gens, sur le coup, mais ils ont jusqu'à leur mort. Donc ce que vous faites, ce n'est pas grâce à votre capacité de présenter l'évangile ou votre capacité de bien sûr, il y a des dons, de ce qu'on appelle des évangélistes, qui ont une capacité surnaturelle de présenter un don. Moi, j'ai connu ce don dans la personne d'Élie Choiquier, qui était absolument incroyable. Quand j'étais étudiant, on l'emmenait dans les facs. Il y avait des auditoires incroyables qui étaient touchés par son message, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit pour le présenter avec une capacité de présentation que j'ai jamais reconnue dans aucun évangéliste, tellement c'était fort. En tout cas, français, je parle. Donc, les gens, ils ont jusqu'à leur mort la capacité d'accepter Jésus. Mais s'ils ne l'acceptent pas, ils se jugent eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à Dieu que par Jésus-Christ. Et ensuite, après, il y a un deuxième jugement, c'est le jugement dernier. Et c'est celui qui va venir. Ce qui va venir, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dans lequel nous, on va passer également, mais sauf qu'on a un avocat. On a le Saint-Esprit, le Paraclète, qui va nous dire non, il a accepté Jésus, donc le péché, Dieu ne le voit plus, puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de culpabilité. Donc nous passerons au travers du jugement. Mais la venue du Saint-Esprit et au travers des langues qui paraissaient de feu, c'est la puissance, la manifestation de la vie, de l'énergie de vie. Alors, Jésus, comment est-ce qu'il est ressuscité ? Il n'est pas ressuscité par ses propres moyens. Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de vie. C'est la puissance de l'énergie. Vous avez besoin d'énergie ? Eh bien, comptez sur le Saint-Esprit. Alors ? Aujourd'hui, les gens cherchent l'énergie. Ce qu'on appelle le mouvement du nouvel âge. Tout le monde cherche l'énergie. Tout le monde parle d'énergie. C'est vrai ou pas ? Vous entendez autour de vous ? Tout le monde veut de l'énergie. Alors, 36 000 moyens pour avoir de l'énergie, hein. Soit par la nourriture, soit par toutes sortes de pratiques, voilà, plus ou moins naturelles, etc. Voilà. On cherche l'énergie, c'est vrai, parce qu'on a besoin d'énergie. Parce que nous sommes voués à la mort. Hein. Quand on vieillit, moi j'ai plus du tout l'énergie que j'avais quand j'étais jeune. Hein. Et on le sent que ça baisse. Hein. Parce que la mort est la conséquence du péché. Et moi, je suis mortel parce que j'ai péché, parce que mes parents ont péché, parce que Adam a péché, parce que la nature est pécheresse. Donc, c'est la mort. Et donc, on a besoin d'énergie. On cherche l'énergie. Mais aujourd'hui, le transhumanisme cherche à provoquer l'énergie. Donc, ils vont transformer votre cerveau en ordinateur qui va prendre le contrôle de votre vie. Et c'est lui qui va vous amener plus loin. C'est peut-être un légume dans votre corps, mais vous aurez un cerveau qui va fonctionner. Vous voyez, ça c'est le transhumanisme, vous voyez, l'inventivité des hommes. Mais Dieu a prévu autre chose pour nous. Il a prévu pour nous un nouveau corps. Il veut ressusciter notre corps. Il veut transformer notre corps pour qu'il ait la nature du corps de Jésus. Vous vous rendez compte ? On pourra traverser les murs. On pourra faire comme Jésus. C'est extraordinaire. C'est ça le christianisme, c'est qu'il prêche que notre corps sera transformé. Il n'est pas mauvais le corps, Dieu l'a créé, sauf qu'il est atteint du péché, donc il va vers sa mort. Et le Saint-Esprit vient pour nous énergiser, si vous voulez. Et ces langues de feu qui paraissaient de feu, ce sont la manifestation de l'énergie qui vient dans les disciples. Pourquoi ? Pourquoi faire ?
Pardon ?
Pour annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, il y a des revivalistes qui parlent de catch the fire, le feu. Et malheureusement, c'est pour avoir des manifestations, des expériences. On n'a pas besoin d'expérience. Quand moi je me suis converti, ça remonte à 1967, donc ça va. Ça fait un bail. Hein. J'ai tout simplement pris la Bible que je connaissais le Nouveau Testament, pas l'Ancien, parce que les catholiques, on ne connaît pas l'Ancien Testament, parce que les prêtres disent que c'est trop compliqué, donc ils extraient dans le missel des choses simples, dans les psaumes, etc. Voilà. Mais l'Ancien Testament, je ne connaissais pas. Bien, l'ami qui m'a amené au Seigneur m'a dit, tu lis simplement la Bible? Je dis, oui, mais je l'ai déjà lu. Il dit, non, mais prie avant. Ah, ça, je ne l'ai pas fait. Alors, il dit, prie avant pour que le Saint-Esprit t'éclaire. Alors, j'ai repris ma Bible, j'ai prié. Waouh! L'énergie qui est venue, c'est incroyable. Pendant 3 mois, je n'étais plus sur la même planète. C'était une lumière, une puissance de lumière qui est venue. J'étais à l'époque dans ma première année d'école d'ingénieur. Il y avait du chahut là-dedans, vous savez, comme les garçons peuvent le faire. Il y a même des motos dans les couloirs qu'ils amenaient dans les dortoirs. Enfin, c'était des guetzards, vous savez. Vous attendrez tout. Ils ont même monté un mur en plein Chalon sur Marne. Maintenant, c'est Chalon-Champagne. Un mur en pleine nuit, un peu comme les Champs-Élysées. Enfin, c'est plus petit. Ils ont construit un mur et le matin, les ministres sont venus, paf, un mur, quoi. Bon, le maire les a interdits pendant 10 ans de revenir dans. Mais bon, on a tout vu, hein. On a fait les bêtises les plus grandes. Un jour, ils ont démonté une moissonneuse batteuse, ils l'ont rentrée par la porte de là où il y avait l'école. Et ils ont dit aux paysans, voilà, elle est à cet endroit-là, il arrive, la moissonneuse batteuse, elle faisait 3 voies le mur de la porte. Il fallait complètement la démonter pour la ressortir. Bon, ils l'ont fait. Voilà, bon, c'est des bêtises. Et en fait, dans toutes ces bêtises, moi, j'étais dans la lumière, la puissance du Saint-Esprit. Pendant 3 semaines, et quand je lisais ma Bible, il y a le feu de la puissance qui sortait, l'énergie qui sortait pour me transformer. Oui, ça, c'est transformer quelqu'un pour qu'il devienne témoin de Jésus-Christ. Témoigner de la puissance de Jésus-Christ, de l'énergie qui vient d'en haut et qui vous propulse à l'extérieur. Non pas à l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas rentré dans un monastère, faire boucler tout. En fait, il est allé vers les gens. Il est allé annoncer la bonne nouvelle, il est allé guérir les malades, il est allé toucher les gens, il est allé répondre aux besoins. Et c'est ça qu'on doit faire. Voyez. Quand la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, comme ça a été le cas à la Pentecôte, eh bien, Pierre a pris la parole et il a annoncé l'évangile. Et là, il y a une moisson, 3000 hommes qui se sont convertis d'un seul coup. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie multipliée par 100 000, ou même 1 million, si vous voulez, qui n'est pas comparable à toute énergie. C'est l'énergie vitale. Ce que les gens recherchent dans le Nouvel Âge aujourd'hui, eh bien, Dieu le donne par l'onction du Saint-Esprit. Dans Acte 2, 24, on voit que la vie triomphe de la mort. Jésus dit, je me suis dessaisi de ma vie pour la reprendre. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous, il la reprend et il envoie son esprit qui est l'esprit de Dieu, l'esprit qui nous donne la puissance pour le servir. On voit aussi dans les disciples d'Emmaüs la même chose qui s'est passée. Quand les disciples ont marché à côté de Jésus, eh bien, ils ont marqué leur désespoir en disant, oui, on croyait dans ce Jésus, mais voilà, ça fait 3 jours, il est mort, voilà, il y a des femmes qui disent, il est revenu à la vie, mais bon, voilà, c'est une histoire de bonne femme, etc. Voilà. Et pendant qu'ils marchaient, la Bible, alors c'est de Jéricho, Jérusalem et Jéricho, hein, ça fait quand même plusieurs heures de marche, eh bien, ils disent que leur cœur a été touché, voyez-vous. Leur cœur était touché par la parole que Jésus, parce que Jésus leur rappelait tout ce qui était dit de lui. Et d'un seul coup, quand ils ont pris le repas, parce qu'ils l'ont invité à table, leurs yeux se sont ouverts. Leur cœur brûlait. Voyez-vous, le Saint-Esprit fait brûler nos cœurs. Allô ? Est-ce que ton cœur brûle quand tu lis la parole de Dieu ? Moi, mon cœur brûlait au point incroyable, mais c'est vrai que c'est une expérience qui ne s'est jamais reproduite à ce niveau d'énergie. Mais on devrait voilà, tendre vers cela, dire Seigneur, fais brûler nos cœurs, pour que à la lecture de ta parole, eh bien, j'ai faim et soif de te connaître davantage. Amen. Alors, regardons ce qui s'est passé au temps des apôtres, au chapitre 8, et on verra que, voilà, il faut faire attention à quoi on s'attache. Chapitre, je vais en dire 8, et on va lire à partir du verset 9. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. » Pas n'importe quoi. Ils s'attachaient à lui parce qu'ils avaient assez longtemps étonné, ils les avaient assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, donc l'évangéliste, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Vous voyez, il y a le baptême et la réception de l'Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Lorsque Simon, donc le magicien qui s'était converti, vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent. Waouh ! Voilà quelque chose qui... C'est mammon. Hein ? Et donc regardez autour de vous, dans les milieux que vous écoutez, que vous aimez, quand il y a l'argent, il faut qu'il y ait une sorte de... Vous savez, comme dans les voitures de pompiers ou voilà, de warning là, qui tourne l'orange, qui tourne. Hein, je vous recommande ça, hein, pour ne pas tomber dans les pièges. Hein. Il faut tout de suite qu'il y ait quelque chose qui tourne au-dessus de votre tête pour dire attention, tac, tac, tac. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il leur apporta de l'argent. Et il dit, donnez-moi aussi le pouvoir, ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre dit, que ton argent aille à la perdition avec toi. C'est pas gentil, hein, part de Pierre quand même. Oh, il aurait pu être plus gentil. Hein, voilà. Il n'est pas compassionnette, comme on dit, rempli de compassion. Voilà. Tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voyez-vous, est-ce que notre cœur est droit ? On peut être chrétien, on peut être converti, on peut être baptisé et ne pas avoir un cœur droit. Hello ? Réfléchissons à ça. Ne soyons pas des gens naïfs qui croyons tout ce qui est autour de nous comme si c'était des bisounours. C'est le cœur. Qui connaît le cœur ? C'est Dieu. Pour ça, nous n'avons pas à juger le cœur, mais nous avons à juger les fruits. Alors, ça vous dit quelque chose, hein ? Regardez les fruits, et après vous trouvez la racine. Parce que si vous avez un fruit qui n'est pas bon, dire que la racine est mauvaise. Et là, la racine, c'était quoi ? La recherche du pouvoir par l'argent, c'est un moyen. Du pouvoir d'être adulé comme il l'a été. Ce qu'on disait... C'est la puissance, la grande, qu'avait Simon le magicien. Donc c'était pas juste, voilà, c'était pas un charlatan, si vous voulez, hein, parce qu'il y a des charlatans hein, dans le monde occulte, mais il y a des gens qui ont une réelle puissance. Mais vous devinez d'où ça vient. Alors voilà ce que dit Pierre. Il n'y a pour toi ni lot, ni part dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise. Vous voyez, ça commence dans les pensées. Et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur, vous voyez, c'est l'intention. Ce qui commence, c'est quelle est notre intention. Donc prions que notre intention soit bonne, soit juste. Et prions pour que ceux qui annoncent l'Évangile, que leur intention soit juste et bonne. Si l'intention n'est pas bonne, eh bien ça va donner des mauvais fruits. Et il dit, pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Pourquoi s'il est possible? Parce que tout dépend. Si même il y a une repentance qui n'est pas vraie, ça ne sera pas possible. Voyez-vous? Vous voyez, ça va dans les moindres détails du cœur. Moi j'ai vu des chrétiens, je parle des chrétiens, je ne parle pas des païens, des chrétiens qui se sont repentis, mais je savais que ce n'était pas une vraie repentance. En fait, ils n'étaient pas contents que je les ai chopés. Voyez, c'est comme quelqu'un qui sort d'un magasin, qui a volé, mais qui a l'habitude de voler. Hein. Il vole, je sais pas, des iPhones, par exemple. Il les revend, etc. Et puis, voilà, ça se passe très bien, jusqu'au jour, paf, il y a un garde à l'entrée qui le voit, paf, il le chope. Ah non, 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 mais il est tout repentant et tout ça. Hein. Mais en fait, il y a deux types de repentance. Vous les connaissez, les deux types? C'est Paul qui l'explique. Il y a la repentance selon Dieu et la repentance selon le monde. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a deux types de repentance et une repentance. Allô? Pardon? Exactement. C'est-à-dire que la personne n'est pas contente d'avoir été pris. Bien sûr, c'était tellement bien de pouvoir voler sans être pris. Jour où j'ai pris, voilà, t'es pas content. Donc c'est un remords. Donc c'est en fait un regret que, ah, ce jour-là, mince, le garde, il l'a vu. Vous voyez? Ben ça, c'est une repentance qui amène la tristesse selon le monde. Mais la tristesse selon Dieu, c'est autre chose. C'est de reconnaître que j'ai offensé Dieu. Quand je suis pris à la sortie, si la personne, donc en question, se repent devant Dieu, dire Seigneur, voilà, je t'ai offensé, exactement comme le fils prodigue l'a fait, là, c'est une vraie repentance qui conduit au salut. Alors, vous voyez, c'est au fond du cœur. Vous pouvez pas le voir, ça. Mais moi, j'ai vu des chrétiens dans l'église qui ont détruit l'église. Bon, à mon œil, ça s'est arrêté, je les ai mis dehors. Mais ça s'appelle la discipline. Mais voilà, c'était des gens qui étaient toujours pas content d'avoir été pris, hein, parce qu'à un moment donné, quand vous faites des choses, vous savez, ça se sait, hein, ça se voit. Hein. Les gens qui pensent pouvoir faire des choses comme ça, in vitam aeternam, le problème, c'est que ça devient une habitude, et puis voilà. Donc après, ça devient pire, et c'est pour ça que d'ici, c'est possible. Parce qu'il y a des personnes qui ont passé un cap où leur conscience ne parle plus. J'ai lu un livre qui est encore disponible, je crois, je ne me rappelle plus exactement le nom de la personne, il vivait au Canada de l'Ouest, il était psychiatre, un chrétien, et ses parents, très évangéliques, disaient « il ne faut pas aller au cinéma ». Ok, donc il n'allait pas au cinéma, les Quakers étaient très, très rigides sur les choses qu'il faut faire, il ne faut pas faire. Et puis un jour, il y a ce copain qui dit « Ah, tu viens avec moi au cinéma ?» Il y a Laurel et Hardy. Oh, Laurel et Hardy, hein, bon, je crois que ce n'est pas interdit au-dessus d'un certain âge. Et ça a travaillé, parce qu'il s'interdisait d'aller au cinéma. Et finalement, il a craqué, il est allé avec son copain, mais il n'a pas dormi pendant 15 jours. Sa conscience le travaillait en disant qu'il a péché. Voyez. Ça veut dire que votre conscience, elle se règle. Et plus elle se dérègle, et bien plus votre petite voix ne vous dit plus rien. Et c'est ce que la Bible appelle des hommes et des femmes qui sont, leur conscience est marquée au fer rouge. C'est quoi le fer rouge quand on marque les animaux, les chevaux, etc.? Mais ça insensibilise complètement. Vous pouvez mettre une cigarette dessus, il y en a qui mettent des cigarettes, ils ne sentent plus rien. Voyez, parce que ça ne remonte plus à votre cerveau pour vous dire que c'est chaud, c'est froid, etc. Donc les chrétiens qui s'habituent au péché, qui ne sont pas pris, parce que voilà, ils ont de la chance, entre guillemets, hein, le Seigneur fait grâce, et bien le jour où ils sont pris et qu'ils ne se repentent pas profondément, en craignant Dieu, parce que Dieu l'a vu avant que les hommes voient qu'il était en train de voler, eh bien, leur conscience ne parle plus et c'est parfois impossible de revenir à la repentance. C'est ça qui est grave. Et c'est ce qui s'est passé avec Simon. On va lire la suite. « Car je vois, » donc c'est toujours Pierre qui parle, « car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel. » Alors ceux qui ont fait le ministère de la maison d'Élie, j'écoute votre discernement, si vous aviez Simon le magicien devant vous et vous écoutiez ses fruits, qu'est-ce que ça vous dit? C'est exactement l'application du ministère de la maison d'Élie. Allô? Il y a juste l'expression qui change un petit peu, mais c'est exactement le ministère de la maison d'Élie. Non, ça ne vous dit rien. Alors, je reprends pour vous aider. Ce serait dommage que vous ne trouviez pas. C'est tellement simple. Simon le magicien, il fait des prodiges et machin, etc. Tout le monde lui dit c'est la grande. Et puis d'un seul coup, il voit Philippe qui fait des miracles encore plus grands que lui. Et hop, il donne l'argent pour acquérir ce pouvoir. Hein. Parce que tous les autres pouvoirs s'acquièrent aussi par l'argent dans le monde occulte, vous savez, c'est pas gratuit. On donne de l'argent, les voyantes, les diseuses de bonne aventure et tout ça. Et là, Pierre lui dit, mais attends, ton cœur, il est rempli de fiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fruits, est-ce qu'ils étaient bons, ces fruits? Bon. C'est quoi la racine? C'est la racine amère. Ça s'appelle fiel, mais vous savez ce que c'est le fiel, hein? C'est amer, hein? C'est l'amertume. Hein? C'est rempli d'amertume. C'est le mystère de la maison d'Élie. On nous apprend que quand il y a un fruit qui est mauvais, il y a une racine amère. Allô? Ça y est, vous êtes reconnecté là? Ministère de la maison d'Élie. C'est exactement, vous voyez, Pierre a fait le ministère de la maison d'Élie. Parce que c'est un principe de fonctionnement de la nature humaine. Quand il y a un fruit qui est mauvais, il y a une racine amère. Il a dit, toi, tu as une racine amère, tu as du fiel dans ton cœur. Voilà comme il le dit. Tu es en proie, c'est plus que, c'est quelque chose qui te ronge, qui est complètement, qui ronge ton cœur, est en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Vous voyez, on est complètement aux antipodes de la justice de Dieu. Quand on est dans une racine amère, on est dans l'injustice parce qu'on pense qu'à soi. Jésus, il n'a pas pensé à lui, il a pensé aux autres. Il est venu dans le monde pour donner sa vie. On est aux antipodes de ce que Jésus a fait. Et de ce que, alors, vous imaginez, il aurait obtenu, par l'argent, il aurait obtenu la puissance du Saint-Esprit. Vous imaginez un petit peu ce que l'Église aujourd'hui serait? Eh oui. Il y a une séparation entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Entre ce qui est saint et ce qui est profane. On ne peut pas jouer avec Dieu. Un jour ici, il y a une épée du jugement qui est apparue. L'Église était jugée. Mais c'est pas parce qu'il y a des filles qui avaient des jupes plus courtes que l'autre. Hein. Bon, on retombe toujours sur l'aspect sexuel. Non. C'est parce qu'on avait laissé dans cette Église Jézabel régner. Et ça, c'est grave. Quand on laisse un esprit d'antichrist régner, là, Dieu dit, c'est plus mon Église. C'est à cause de ça qu'on a été jugé. Et que Michel et moi, on a dit, bon, bah, dans ces cas-là, on n'est plus pasteur. On ne peut pas être dans une Église où il y a le jugement de Dieu. On prend nos responsabilités. On les a remis, on s'est repenti, et on a demandé à Dieu quoi faire. Elle a dit, vous revenez, et toute l'Église doit se repentir. Et au bout d'un an, on a mis dehors Jézabel. C'était obligé. Dans les sept églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, il y en a quatre qui ont laissé l'esprit de Jézabel dans l'église. Et c'est une horreur. Ce n'est plus une église. C'est une synagogue de Satan. C'est grave, ça. C'est grave. Sur les sept, c'est Philadelphie qui était honorée. Donc, vous voyez, un sur sept, c'est pas grand-chose, hein, quand même. Et cette parabole est vraie pour toutes les générations. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai il y a 100 ans, c'est vrai il y a 1000 ans, c'est vrai tout le temps. C'est les situations de l'Église. Aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Les Églises ne vont pas si bien qu'on pense, même s'il y en a qui sont dans un délire. Non, il faut faire attention qu'on ne laisse pas l'esprit d'Antéchrist régner. Et là, Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, il avait le discernement de ce qu'allait faire Simon le magicien. Alors on va terminer cette lecture. Simon répondit, alors là c'est le comble, on retrouve exactement l'enseignement de Michel sur Saül, hein, écoutez bien. Si vous laissez parler le texte, vous allez comprendre tout de suite. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Allô ? Non ? Ça vous fait pas, comment on dit en anglais, un ring a bell ? Il y a une sonnette qui vous parle, là. C'était l'attitude de qui, ça ? De Saül. C'était l'attitude de Saül. Priez pour moi. En fait, ce qui le préoccupait, le fameux Simon, c'est pas tellement qu'il offense Dieu. C'est que il lui arrive pas les bébelles, comme on dit au Canada, parce que j'étais 2 ans au Canada, on appelle ça les bébelles, c'est les gros coups durs, qui lui étaient annoncés par Pierre. Il voulait juste échapper au jugement. Alors, vous croyez qu'on peut comme ça jouer avec Dieu ? Il joue avec Dieu. Il y a des chrétiens qui jouent avec Dieu. Mais ça ne marche pas. Ça marche jusqu'à un certain point. Dieu est bon. Mais il y a le jugement. Le Saint-Esprit est le feu du jugement. Donc revenons à la crainte de Dieu. Non pas la peur de Dieu, mais une crainte respectueuse. On respecte Dieu pour qui il est. Il n'y a pas d'injustice en lui. Donc si dans l'Église il y a de l'injustice, il y a du jugement, repentons-nous. Parce que sinon l'Église ne pourra pas être l'Église. Il ne peut pas y avoir de paix dans une Église où il y a du jugement. Il ne peut pas y avoir de paix dans l'Église où il y a des gens qui trafiquent avec l'argent, des intentions mauvaises, des racines amères, etc. Pas possible. Vous voyez, ce matin, on a vécu un moment extraordinaire, de commun. Okay ? Parce que dans le cœur, il y avait une intention bonne, une intention saine, une intention qui était basée sur le fait de glorifier le Seigneur. Amen. Et vous savez, cette Église n'était pas comme ça. Quand Dieu nous a demandé, on a appris énormément de choses. C'est en particulier ce que je viens de dire. Simon le magicien, ce n'est pas juste une légende. Alors, tenez-vous bien sur votre chaise, mais Simon le magicien, c'est en fait celui qui a démarré une autre église. Ça s'appelle l'église gnostique. La gnose, la connaissance supérieure. Et cette église gnostique, aujourd'hui, elle est toujours vivante et plus que jamais. Le gnosticisme aujourd'hui, il est plus vivant que jamais. Il a redémarré dans les années 70 comme jamais il n'a existé et plus fort que dans l'Église primitive. Donc je peux vous dire qu'il faut s'accrocher au siège. Parce que si on n'est pas sur une théologie qui présente Dieu tel qu'il est, eh bien je peux vous garantir que vous ne pouvez pas voir ce qu'est gnostique qu'il n'est pas. Il n'y a que la vérité de la parole qui peut vous permettre d'identifier et de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Ça, c'est un défi que j'ai relevé et grâce à ça que l'Église peut être en paix en ce moment et j'espère qu'elle va le rester. Donc cette histoire de Simon le magicien est une histoire qui est actuelle, qui est universelle, qui se manifeste à chaque instant quand le cœur n'est pas attaché à Dieu, mais qu'il est attaché à autre chose. Avec de l'argent, il voulait acheter la puissance du Saint-Esprit. Il n'est pas gonflé, le gars. Aujourd'hui, il y en a des gens qui ne sont pas gonflés non plus, hein. Surtout dans les milieux évangéliques. Donc, soyons vraiment sur nos gardes pour que nous puissions garder notre cœur pur. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui descend de cet esprit et qui rentre dans les églises, eh bien, vous avez le yoga, que ce soit le Reiki, que ce soit la Kundalini, que vous soyez l'Activa quantique, la Dishka, etc., le chamanisme, etc. Tout ça, c'est pratiqué dans des églises, hein, chrétiennes, hein, je parle. Donc ça, c'est une abomination devant Dieu et c'est quelque chose qui amène la malédiction sur l'Église. La différence entre... Et ça se passe par l'imposition des mains. Il a vu, Simon l'a vu, que ça se passait par l'imposition des mains. Donc il a dit, imposez-moi les mains. Ben, l'imposition des mains, vous pouvez transférer de l'énergie, que ce soit le Saint-Esprit ou que ce soit autre chose. Et c'est pour ça, faites attention quand vous êtes dans des rassemblements, qui vous impose les mains. La Bible dit, n'impose pas précipitamment les mains. Okay? L'imposition des mains doit être quelque chose qui doit être fait avec discernement et surtout pour ordonner des ministères, par exemple. Des ministères qui vont annoncer et proclamer l'évangile. Mais l'imposition des mains, les uns sur les autres comme ça, quand on les voit et que vous voyez des choses bizarres qui apparaissent, ben je peux vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Surtout quand ça ne conduit pas à l'amour de la parole. D'ailleurs, c'est un critère que John Wimber nous disait. Quand quelque chose arrive de surnaturel et que ça n'amène pas la personne à dévorer davantage la parole, vous pouvez faire des doutes sur ce qu'il a vécu comme expérience. Donc c'est aussi un critère, c'est l'amour de la parole, l'amour de la vérité. Qui, voyez-vous, Simon le magicien, il n'avait pas l'amour de la vérité. Il avait l'amour du pouvoir pour pouvoir faire des miracles comme Philippe les a fait. Et donc il a demandé à ce qu'on lui impose les mains pour recevoir ce don. Pour terminer, je dirais que aujourd'hui, le Saint-Esprit veut se répandre, il se répand, heureusement, tous ceux qui se font baptiser reçoivent l'Esprit. Il ne faut pas qu'on soit charismatique contre anti-charismatique, etc. Parce que les non-charismatiques, ils ne veulent pas anti-charismatiques, et bien simplement ils veulent de l'authentique. Et quand ils rencontrent l'authentique, eh bien ils ne crachent pas dessus. Je sais que M. Choiquier, qui était un évangéliste extraordinaire, était venu à Montréal nous voir quand on l'a amené dans des amphis qui étaient remplis jusqu'à 500 personnes. Il a annoncé l'évangile, c'est incroyable la réponse qu'il a eue. Bien dans le privé, maintenant il est mort, je peux le dire, eh bien il a parlé en langue. Alors qu'il était dans une église qui était contre le parler en langue. Parce que les personnes qui sont authentiques, ils font la même expérience du Saint-Esprit. Et il nous a dit que celui qui est bien connu, je ne me rappelle plus maintenant, Michel me le soufflerait, bien c'est pareil, on lui a dit dans une église non charismatique ou même anti-charismatique, eh bien je voudrais que dimanche tu prêches sur le parler en langue. Bon, donc il s'est préparé et le mercredi, dans sa préparation, il a parlé en langue. Voilà, c'est non, tu as le nom, qui est à Paris, dans le 13e arrondissement. Enfin, j'ai un trou. Et il a parlé en langue. Et le dimanche, il est venu devant, a dit, écoutez, vous m'avez demandé de prêcher, je ne peux pas, il est rassis. Il n'y a pas eu de prédication ce jour-là. Il était honnête. Il savait que ça allait diviser l'Église, s'il allait parler de ça. Donc il était sage. Ouais. Mais sachant que le Saint-Esprit fait toujours la même chose, des personnes qui cherchent authentiquement le Seigneur, ils font authentiquement, non pas des expériences, c'est le résultat de leur communion avec Dieu. Ne confondons pas l'expérience et le résultat. Quand j'ai fait la rencontre avec Jésus, j'ai fait l'expérience, mais je n'ai pas cherché l'expérience pour avoir la rencontre avec Dieu. Vous voyez, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc ne cherchons pas l'expérience. L'expérience, elle vient. Parce que ça fait partie de l'énergie, de la puissance vitale que le Saint-Esprit donne, puisqu'il peut même ressusciter des morts. Alors, mais cherchons le Seigneur. Cherchons à obéir à sa parole, parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, eh bien, c'est celui qui va obéir à mes commandements, à ma parole. C'est ça qui est le plus important. Et les expériences suivront. Allô ? Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui, eh bien, sur la génération actuelle, il agit à condition que nous ne falsifions pas les choses comme Simon l'a fait en cherchant l'expérience. Mais cherchons le Seigneur. Amen. Je vous invite à prier pour que nous puissions être cette église Philadelphie, cette église fidèle qui sait discerner les temps et les moments et ne blesse pas le cœur du Père, qui lui veut qu'il y ait l'authenticité dans une église qui veut qu'il y ait des cœurs purs, des intentions qui le glorifient et qui élèvent son nom. Seigneur, nous te prions pour que, à l'occasion de cette Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui, nous puissions être cette Église, Seigneur, où tu peux te réjouir, Seigneur, de ce qu'il y a des intentions pures dans les cœurs. Ôte toutes les choses qui sont impures, Seigneur, que nous ne laissions pas entraîner par toutes sortes d'artifices pour obtenir cette puissance, mais que nous puissions simplement te servir. Tu nous as donné l'esprit pour le faire et tu veux nous donner en abondance, encore davantage, mais pour un but, c'est pour te glorifier. Pour un but, c'est pour annoncer ta parole. Pour un but, c'est pour que d'autres, Seigneur, que nous puissions être sauvés parce que tu es venu pour sauver tous les hommes. Et Seigneur, nous te remercions de ce que tu donnes cette mission à cette Église ici et maintenant, d'être témoin de ta grâce et de ton amour. Et que Seigneur, nous recherchions qu'une seule chose, c'est de te plaire, et c'est de t'obéir. Seigneur, nous te demandons cela au nom de Jésus.